franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, le climat en Méditerranée qui risque de changer fortement dans les 50 prochaines années. Sécheresses et canicules vont se multiplier.
Nous n'avions pas véritablement de plan d'intervention d'urgence en pareil cas. Il faut qu'on en prenne les leçons. Il faut qu'on réfléchisse sur la possibilité de revoir de tels phénomènes survenir. Est-ce qu'il y a des conjonctures climatiques particulières qui sont à prendre en compte? Tout ça, on le travaille actuellement avec Météo France.
Et ça, c'était en 2003, à l'occasion de la grande canicule, et c'était Gilles Brucker, alors directeur de l'Institut National de Veille Sanitaire. Les épisodes caniculaires, donc comme celui de 2003, pourraient se banaliser en Méditerranée et survenir tous les 5 ans, d'ici 50 ans. Joël Guyot, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes paléoclimatologue, chercheur CNRS au laboratoire d'excellence OTMED à Aix-en-Provence, et donc vous publiez cette étude climatique prospective autour du bassin méditerranéen dans la revue Science. Quels sont les scénarios pour le futur que vous avez pris comme base de travaux justement de modélisation?
Alors on a pris les scénarios avec mon collègue Wolfgang Kramer qui est co-auteur de l'article. On a pris des scénarios de GIEC, hein. C'est 4 scénarios qui vont depuis le plus optimiste, qui, disons, prévoit un réchauffement qui serait limité à 2 degrés, au moins optimiste, c'est-à-dire on continue comme avant, on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce dernier scénario pourrait arriver à une augmentation de température allant jusqu'à 4-5 degrés.
Dans un changement climatique maîtrisé, c'est-à-dire 2 degrés, quels sont les changements les plus marquants que vous voyez dans vos algorithmes?
Alors, on a focalisé notre étude sur la végétation. Donc, on a couplé un modèle de végétation qui nous prédit la végétation à partir du climat. Et on a simulé qu'un réchauffement de 2 degrés permettrait de pousser la végétation vers dans une direction beaucoup plus sèche. Et les changements qui interviendraient n'auraient jamais été connus, en fait, depuis 10 000 ans. Depuis l'Holocène, la période d'il y a 10 000 ans. Et que si on arrivait à maintenir le réchauffement à moins de 2 degrés, c'est-à-dire à 1,5 degré, ce qui est inclus dans les accords de Paris qui ont été négociés en décembre 2015, eh bien à 1,5 degré, eh bien là, on arrive dans le domaine de la variabilité de l'Holocène, et alors on a des situations qui sont un peu plus connues, quoi. Donc vraiment, le seuil de 2 degrés, c'est un seuil qu'il vaudrait mieux ne pas atteindre si on veut que les écosystèmes méditerranéens ne change pas trop de manière inattendue.
Et est-ce que ces sécheresses concernent tout le bassin ou certaines zones en particulier?
Alors, évidemment, il y a des régions où il va faire plus sec qu'à d'autres. Mais en gros, c'est le nord de l'Afrique et l'est aussi, le Moyen-Orient. Et également le sud de l'Europe, comme le sud de l'Espagne, le sud de l'Italie. Ce sont les régions qui seront les plus affectées.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de désertification pour certains endroits ou pas encore, pas dans 50 ans?
On peut parler de désertification dans le sens où c'est une avancée du désert. Alors, je pense qu'il ne faut pas penser ici à un désert qui serait du sable comme au Sahara. C'est un désert de buissons qui fait une végétation très sèche, comme on en connaît déjà dans certains endroits du sud de l'Espagne, mais là, ce serait généralisé sur toute l'Espagne.
Et ça, c'est dans le cadre du scénario le plus optimiste, Joël Guyot?
Non, la moitié sud de l'Espagne désertifiée, c'est le scénario le plus pessimiste. Et dans le scénario optimiste, on peut éviter ça et limiter ce problème à quelques points bien précis dans le sud de l'Espagne ou ailleurs. Alors, mais disons que l'Espagne ici, ça montre bien, c'est assez emblématique dans l'étude.
Oui.
On l'a vu en Syrie, la sécheresse des années 2000 a causé des migrations de population. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Espagne ou la partie africaine du bassin pourrait être confrontée à ce même genre de problème?
Ah ben, de toute façon, il y a déjà des pénuries d'eau, en particulier dans l'Andalousie. L'Espagne manque déjà d'eau, donc si l'eau diminue encore, de toute façon, ils ne pourront pas continuer à promouvoir une agriculture qui n'est absolument pas durable, puisqu'elle est basée sur des méthodes tout à fait intensives et qui nécessitent beaucoup d'eau. Et donc là, forcément, il faudra importer de l'eau du nord. Ça, c'est incontestable.
Donc il y a un enjeu extrêmement important autour de la problématique liée à l'eau, Joël Guyot, dans justement ce travail de prospective.
Oui. C'est vraiment l'eau qui est le nerf de la guerre dans ce cas-ci. Puisqu'il faut de l'eau. L'écosystème méditerranéen est caractérisé par une sécheresse en été. Pour donner un exemple, dans le sud de la France, on a 3 mois de sécheresse. Et disons qu'avec un scénario tel que celui qui nous augmenterait la température de 2 degrés, eh bien on pourrait avoir 5 mois de sécheresse. Et donc plus on va vers le sud, plus la saison sèche va durer. Donc il faut vraiment, on risque d'arriver dans des situations qui ne sont pas connues, en tout cas dans l'Europe du Sud, et les problèmes d'eau seront vraiment très 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 forts.
À l'inverse, est-ce que certaines régions vont recevoir plus de précipitations ?
Oui, les régions du nord de l'Europe pourraient recevoir plus de précipitations. Il y a aussi un problème de saisonnalité de la précipitation. Par exemple, même en région méditerranéenne, on pourrait avoir plus de précipitations dans certains endroits, mais cette précipitation arriverait en hiver et c'est en été qu'on en a besoin. Donc il y a vraiment un problème de distribution au cours de l'année. Et souvent, ces précipitations très fortes qu'on a en automne, ou au fin de l'été, elle ruisselle et n'alimente pas du tout les nappes phréatiques et elle ruisselle dans les cours d'eau, puis finalement elle retombe à la mer. Donc cette eau-là ne serait pas vraiment disponible pour notre agriculture.
Robert Barouki, vous souhaitez réagir. C'est le biochimiste ou le méditerranéen là, qui a envie d'intervenir ?
Il m'est parfois difficile de séparer les deux. Mais... en tout cas, cette question-là n'est pas du tout indépendante de la question qui va nous occuper tout à l'heure hein, sur l'alimentation. C'est un vrai problème. Donc c'est l'alimentation, les produits chimiques qu'on va rajouter. Tout ça interagit dans notre organisme et il faut avoir une vision très intégrée des choses. Et il se passe là des questions de manque d'aliments, de manque d'eau, qui sont extrêmement importants et le changement climatique va avoir des effets majeurs sur la santé.
Et je pense que l'agriculture intensive a besoin de beaucoup d'engrais qui est émetteur de... Donc la production d'engrais, c'est émetteur de gaz à effet de serre. Et une des solutions pour essayer de limiter le réchauffement, c'est d'enfouir une partie de ce carbone dans les sols. C'est le programme lancé par le ministère de l'Agriculture qui s'appelle le programme 4 pour 1000. Essayer d'augmenter de 4 pour 1000 l'enfouissement du carbone dans les sols. Et l'intérêt de la chose, c'est que pour y arriver, il faudrait promouvoir une agriculture un petit peu moins intensive et beaucoup plus tournée vers l'agroécologie.
Eh oui.
Alors, moi, je pense qu'on y gagnerait aussi au niveau de la qualité de l'alimentation.
Merci pour votre transition, pour le sujet qui va suivre, en tout cas, Joël Guyot. Une dernière question, Axel.
Oui, on en parlait en introduction de ce sujet. Les canicules aussi sont dans vos prévisions. Elles seront plus chaudes ou plus fréquentes ?
Non, c'est pas exactement dans l'article, mais... ce qu'on peut dire sur les canicules, c'est qu'elles sont plus fréquentes. C'est-à-dire, la canicule de 2003 a été tellement extrême qu'on n'en a jamais connu pendant toute la durée des mesures météorologiques. Et donc, si on réchauffe le climat de 2 degrés, on peut estimer qu'on va avoir ce type de canicule une année sur 5 en moyenne.
Oui, c'est beaucoup quand même. Hein, oui.
Oui, c'est beaucoup. Parce que, bon, alors donc, il y a un gros effort d'adaptation. Oui. Et si on réchauffe le climat de 3 degrés, eh bien, c'est carrément la moyenne de la température. L'année 2003 va nous fournir la moyenne de la température avec une augmentation de 3 degrés. Donc, à ce moment-là, la situation extrême de 2003 devient la norme pour la fin du siècle.
Et ça n'est pas très réjouissant. Merci beaucoup, Joël Guyot. Vous êtes paléoclimatologue et je rappelle que cette étude est parue dans la revue Science. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Bonne journée. Et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le démonstrateur Schiaparelli de l'ESA est en 1000 morceaux sur la planète Mars et les images prises par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter montrent la violence du crash. On y voit une traînée noire pour le petit module, 2 cratères pour les boucliers thermiques et une ombre blanche pour le parachute, le tout éparpillé sur plus d'une centaine de mètres. Bien que la raison exacte de cet échec soit encore à l'étude, une piste publiée vendredi dans le journal Science évoque une erreur logicielle dans l'estimation de l'altitude du module. C'est ballot. Votre nez pourrait guérir votre genou. Une nouvelle technique de greffe de cartilage élaborée par des chercheurs de Bâle en Suisse propose d'utiliser le cartilage du nez plutôt que celui de l'oreille pour les greffes. Le principal problème du cartilage du genou ou de l'oreille articulaire est qu'il se reconstitue mal ou très lentement. Et ça n'est pas le cas du cartilage du nez dont les cellules se reproduisent facilement en s'auto-réparant. Elle bénéficie également d'une meilleure élasticité, s'adapte aisément à un autre environnement tel que le genou. Environ 2 millions de personnes par an souffrent de lésions cartilagineuses du genou en Europe et aux États-Unis. Yeah. Et puis la technique de modification de l'ADN CRISPR sera bientôt sur grand écran. Le magazine Hollywood Reporter dévoile que l'actrice américaine Jennifer Lopez et la chaîne NCS préparent un long métrage prospectif autour de cette technique controversée. Intitulé CRISPR, ce drama d'horreur et de biotechnologie se placerait dans un monde où CRISPR serait tombé entre les mains, entre de mauvaises mains et menacerait l'humanité. Pas de date de sortie annoncée pour l'instant, mais la confirmation que cette avancée dans la génétique fait à la fois peur et rêver.